La brume avait cédé à un clair soleil quand les deux religieuses sortirent. En arrivant dans le jardin des simples, elles découvrirent que l'atmosphère presque douce y avait attiré d'autres personnes. Tout au bout du terrain, derrière les carrés de plantes médicinales, deux dames avaient improvisé un atelier de couture sur le belvédère. Prudence réprima un mouvement d'humeur en constatant qu'on avait déménagé à cette fin des sièges et un coffre de la maison abbatiale. Sans doute les sergents d'armes avaient-ils fait office de portefaix, ce qui en disait long sur l'autorité exercée par la captive sur ses geôliers. Les deux soudards montaient une garde relâchée, à distance raisonnable des couturières. Suivie comme son ombre par la sœur auscultatrice, la mystagogue marcha vers les intruses. Finalement, elle n'était pas mécontente que l'entrevue eût lieu dehors. Chaque fois qu'elle remettait le pied dans sa demeure, elle tiquait sur l'immense désordre qui y régnait. Odéarde de magie noire, habituée à être servie par une dizaine de femmes de semaine, secondée par autant de pages et de valets, imposait à l'unique dame de compagnie qui lui restait, la malheureuse Almodie, un train domestique que la suivante était incapable de tenir. Prudence envoyait régulièrement des sœurs converses faire le ménage. Peine perdue. Une heure plus tard, les caprices hygiéniques, décoratifs ou vestimentaires de sa pensionnaire avaient transformé le strict ordonnancement monacal en un capharnaüm artiste. Vue d'un peu loin, Odéarde eût pu passer pour la fille de Prudence. Malgré l'exil et la perte de ses camérières, elle continuait à porter des toilettes raffinées qui la rajeunissaient tout en restant de bon goût. La mentonnière de son chaperon lui restituait un col de cygne. Les brassards fuselés de sa cotte affinaient ses bras. La taille étroite de sa surcotte amincissait sa silhouette. Les fils d'or de sa résille suffisaient à éclipser quelques cheveux gris dans un chignon d'ébène. Il fallait approcher pour découvrir sur ce visage un peu long et distingué des rides d'expression qui, tout en démentant la jeunesse, rehaussaient sa présence. La grande dame fit mine de ne pas entendre approcher les religieuses. Épandue en partie sur le coffre et en partie sur ses genoux, chatoyait une belle houppelande de sa mie à collet de verre. Cela faisait des semaines qu'elle travaillait à la confection de ce manteau avec sa suivante, et il ne restait plus que quelques finitions et les boutons à coudre. Mais Odéarde, les mains posées sur ce luxueux ouvrage, paraissait plongée dans un songe, les yeux perdus dans le panorama qui s'ouvrait sous le parapet du belvédère. Sa dame de compagnie, ayant hâtivement rassemblé le nécessaire de couture posé dans son giron, se leva et ébaucha une révérence. Ce ne fut que lorsque Prudence lui eut rendu son salut que la duchesse déchue sortit de sa rêverie. Elle tourna une figure altière vers la mystagogue et lui adressa un sourire désarmant, plein de gracieuse condescendance et pourtant si aimable qu'il suscitait aussitôt l'envie de plaire en retour. « Ah, révérende mère, comme c'est prévenant de me rendre visite de bon matin. Bonjour, dame Odéarde. Il m'a paru plus approprié de passer vous voir plutôt que de vous convier à la bibliothèque. » La prisonnière fit mine de n'avoir pas saisi l'allusion et conserva son expression amène. « Quelle heureuse initiative !» se réjouit-elle. Ainsi, nous aurons l'agrément de bavarder au soleil. » D'un signe ébauché, elle avait ordonné à sa suivante de céder son siège à la mystagogue. La grande dame elle-même n'avait pas fait mine de se lever. Elle se comportait comme si elle avait gardé la préséance sur la supérieure de Mondoir. Prudence n'eut qu'un instant d'hésitation. Elle n'avait pas envie de s'attarder avec cette femme avenante et retorse. Mais il lui faudrait du doigté pour en obtenir autre chose que des faux fuyants bien élevés. Elle s'assit donc les deux mains croisées sur le livre. « Quel beau temps !» poursuivait Odéarde. « Le printemps arrive si tard dans le chevêchin. Profitons-en. » « Les hirondelles sont de retour ?» dit platement Almodie. « Oui, et j'ai vu un beau couple de ramiers planer à un jet de pierre de la muraille. » se récria sa maîtresse. « Cette journée serait parfaite pour sortir les chevaux et les tiercelets. » De la main, elle adressa un geste d'excuse à la mystagogue. « Mais pardonnez-moi, révérende mère, » se reprit-elle. « La chasse doit vous paraître un sujet de conversation bien frivole. Que voulez-vous, cela me manque tant. » À défaut de la pratiquer, vous la mettez en mots, à ce que j'ai cru comprendre, insinua Prudence. Vraiment ? Ah, vous faites allusion au débat de deux dames. La sœur Clémentia a eu la gentillesse de me prêter l'exemplaire que vous avez en librairie pour que je trompe mon ennui en le recopiant. N'est-ce pas drôle que nous parlions précisément de ce livre entre dames ? Je suis heureuse de voir que la sœur Clémentia s'emploie à adoucir votre séjour parmi nous. Oui, quelle lettrée délicieuse vous avez là. Dans mon malheur, je remercie la déesse de me prodiguer malgré tout de pieuses femmes d'aussi bonne compagnie que vous, la sœur Clémentia. En matière de bonne compagnie, nous voici surpassés, ironisa Prudence. C'est que j'essaie de faire bon visage en dépit des circonstances, répondit la dame de Maginois sur le même ton. Mais elle se détourna soudain en poussant un petit cri ravi.
« Oh, là-bas, là-bas, regardez !»
s'exclama-t-elle en montrant quelque chose du côté des bois qui couvraient la montagne. « Quoi donc ?» s'étonna la mystagogue.
« Mais le faisan, voyons, quel gros coq ! Ne faisait-il pas 3 pieds d'envergure ? Vous avez des faisans à Mont-Doire ! Ha ! La belle chasse en vol que ce serait !»
Prudence, dont l'âge et les livres avaient affaibli la vue, ne distingua rien qui ressemblât à l'oiseau. En revanche, sur les lisières qui dominaient les champs du monastère, elle aperçut du mouvement. Une bande sortait du bois, piétons et cavaliers mélangés. « Quel est ce parti là-bas » demanda-t-elle à l'auscultatrice. « Il ressemble fort à des gens de guerre, » répondit la sœur Mincende. « Il porte une bannière, » ajouta Almody en plissant des yeux. « Elle est jaune. » Mais je distingue mal le meuble, un animal noir.
D'or à ours de sable, devina Odéarde.
Eh bien, il semble que le chevalier de Caquevel soit de retour. Le soleil faisait briller les casques et les lances. La troupe se dégagea assez rapidement de l'orée, car elle n'était guère nombreuse. Elle ne comportait qu'une dizaine de cavaliers et autant de piétons. Malgré tout, elle représenterait une charge accrue pour le monastère si elle faisait étape dans ses murs, ce qui était à craindre, pour peu qu'elle comptât des blessés. Prudence pinça les lèvres en se représentant la scène que le frère Célérier n'allait pas manquer de lui faire. D'un autre côté, elle était soulagée de voir revenir le banneret de Caquevel. Cela signifiait probablement qu'il avait repoussé, ou pis encore, les derniers maraudeurs venus des Landes Grises. Tandis que les gens de guerre remontaient tranquillement le chemin du sanctuaire, Odéarde de Maginois reprit la parole. « Sire Urdistin a encore bon pied bon œil pour courir ainsi la montagne à son âge, » observa-t-elle. « Voilà un prud'homme d'un autre alliage que notre ami Sire Burchard. » « Il n'en reste pas moins un vassal du connétable, » rappela la mystagogue sans avoir l'air d'y toucher. Le coup d'épingle amusa la captive. « Vous et moi, nous avons plus en commun qu'il n'y paraît, » badina-t-elle. « Pour ma part, je n'ai plus rien qui n'appartienne à la déesse. »
« Une indivision plutôt commode. Comme vous avez bien choisi votre nom en religion, révérende mère, »
railla doucement Odéarde. Prudence se sentit plus piquée qu'elle aurait craint de l'être. Un fantôme de l'ancienne colère revint lui battre aux tempes, et l'hymnaire qu'elle avait emporté se mit à lui brûler les paumes. Mais elle se fit violence et demeura maîtresse d'elle-même. Il ne fallait pas utiliser inconsidérément les lettres compromettantes.
« De quoi devisions-nous déjà ?»
glissait distraitement Odéarde, comme si son trait n'avait été qu'une étourderie. « Du débat de deux dames sur le passe-temps de la chasse des chiens et des oiseaux. »
« Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête ?»«
Votre copie est-elle bien avancée ?»«
Plutôt, oui. »«
Vous n'ignorez pas que je n'ai que cela à faire. Nous pourrons bientôt enluminer et relier mon exemplaire. » La mystagogue opina lentement du chef. Odéarde la considérait avec une affabilité nonchalante qui, Prudence en aurait mis sa main au feu, n'était qu'un masque. Cette transcription d'un traité de vénerie formait le premier mouvement apparemment innocent d'une combinaison destinée à aller à dame. La ci-devant duchesse pensait avoir amené la supérieure précisément là où elle le voulait. mais la supérieure avait la certitude d'avoir prévenu la ruse. Elle fit toutefois mine de mordre à l'hameçon pour pousser l'adversaire à dévoiler son jeu. « Je vous savais un peu calligraphe, mais je ne soupçonnais pas vos talents pour la peinture, » dit-elle avec une feinte admiration. Odéard eut un rire argentin. « Vous aviez bien raison de ne pas me soupçonner, » plaisanta-t-elle. « Je n'ai aucun don de cette sorte. » « Oh, mais dans ce cas, comment comptez-vous illustrer votre livre ?»« Enfin, ma mère, cela tombe sous le sens !» Prudence contrefit un sourire embarrassé, comme si elle était confuse de ne point y avoir pensé. Puis elle afficha l'air plus sévère qu'aurait pu lui donner une association d'idées. « C'est que les tâches du scriptorium sont déjà nombreuses, » objecta-t-elle. « J'ai pris la liberté d'en discuter avec sœur Clémentia. Elle m'a assuré qu'elle pourrait faire travailler deux enlumineurs à temps perdu. Eh bien, sœur Clémentia est pleine de ressources. Je m'en félicite pour vos projets. Cependant... »
« Oui, ma mère ?»
Il reste un écueil. C'est un sujet délicat à aborder et je suis navré de soulever un point si trivial. Croyez bien que votre situation eût été différente. Je n'aurais jamais eu la grossièreté d'en faire état. Mais ces enluminures vont nécessiter des feuilles d'or. Sans parler des couleurs venues à grands frais de Récine et des Cinq Vallées. Tout cela est fort cher.
« Oh, bien sûr, soyez tranquille, vous serez défrayé jusqu'au dernier liard. »
« J'en suis fort aise. Toutefois, si vous me permettez une question un peu impertinente, sur quelle cassette ?» Odéard affecta d'être froissé, tout en faisant effort pour garder bon visage. Cette fois, Prudence admira sincèrement la duplicité de la grande dame. Tout cela n'était bien sûr que comédie.
« C'est fort simple. »
lança l'ancienne duchesse sur un ton un peu haut.
« Réclamez vos émoluments à mon fils, le seigneur de Vert. Il souffre autant que moi de notre séparation, il sera ravi de vous rétribuer pour me faire plaisir. Mon gentil prince est orné des plus belles qualités, et la largesse n'est pas la moindre, je suis sûr qu'il vous offrira plus que vous ne lui demanderez. »
Un mince sourire se peignit sur le visage de la mystagogue. On entrait dans le vif du sujet. « Vous voudriez que nous fassions parvenir un message à votre fils ?» sentit-elle doucement.
« Si seulement vous m'accordiez cette faveur !» se récria la captive. « Mais je sais bien que ce n'est qu'une chimère. Jamais le chevalier de Galde ne tolérerait que vous me serviez de truchement. Non, réglez cette transaction de votre côté avec mon cher Méléagant. Quand vous aurez conclu l'accord, vous pourrez exécuter ma commande. »
« Naturellement. » Et j'imagine que ce ne sera qu'un début.
Rassurez-vous, ma mère. Je n'ai pas assez de patience pour recopier toute votre bibliothèque.
Vous n'en aurez pas besoin, du reste. La mystagogue recula sur son siège et perdit de sa faconde. Dame Odéard, dit-elle en changeant de ton, je vous saurai gré de ne pas chercher à compromettre ma communauté. La captive haussa ses sourcils finement dessinés.
« Vous compromettre ? »
s'offusqua-t-elle. « Quelle horrible pensée ! Je ne vous ai rien demandé de tel ! Vous aurez moins de scrupules à le faire dès que le sanctuaire aura reçu donation du seigneur de Vert.
Mais enfin, quel mal y a-t-il à passer commande d'un beau livre ?
Ce ne sera pas le premier que j'acquerrai à mon doigt.
En d'autres temps, madame, aujourd'hui, les prodigalités du seigneur de Vert passeraient... pour le prix de notre forfaiture aux yeux du connétable et du duc. Et vous en joueriez pour nous contraindre à servir vos desseins. »
L'ancienne duchesse prit un air affligé.
« Quelle déplorable opinion vous vous faites de ma moralité !» se plaignit-elle.
« Niez-vous d'avoir maintenu des liens secrets avec vos affidés ?»«
Mes affidés ?»
releva Odéard d'un ton outré.
« Vous insultez des gens suffisamment loyaux et sages pour rejeter un jugement inique. Vous parlez des lettres saisies par Sire Burchard, celles que l'on n'a même pas eu la courtoisie de me faire suivre. Eh bien oui, j'ai des parents et des amis qui s'inquiètent pour moi et qui ont voulu prendre de mes nouvelles. Je ne vois pas en quoi cela les rend coupables de quoi que ce soit. Et ce n'est pas moi qui me suis adressé ces messages. N'étant en rien responsable de cette correspondance, que me reprochez-vous? En quoi pourrais-je vous compromettre? Les apparences de la culpabilité peuvent suffire à perdre des innocents. Je ne saurais mieux dire, repartit la grande dame avec humeur. Votre façon de préjuger de mes intentions en est une belle illustration. Du pouce, Prudence caressa la tranche de son livre. Mais elle estima qu'il était encore prématuré d'abattre la tierce qu'il dissimulait. Il fallait rendre un peu de mou au guide et apaiser la discussion pour que le deuxième coup, en surprenant à nouveau Odéarde, pût lui donner le sentiment que la supérieure savait tout de ses intrigues et jouait avec elle. La mystagogue avait bon espoir que la prisonnière trahirait alors quelques secrets qu'elle croirait déjà éventés. « Je vous accorde, madame, que je vous fais probablement un procès d'intention, » concéda-t-elle. « Mais votre proposition, même si elle est formulée de bonne foi, n'en est pas moins dangereuse. Compte tenu des épreuves que vous avez traversées, il est singulier que vous n'en ayez point conscience. » « Que voulez-vous? Je suis une bécasse. Ne faut-il point être la reine des sottes pour avoir chu aussi bas ?» L'ancienne duchesse avait lâché ses paroles en détournant le regard, les narines pincées de colère. Elle respirait fort, et Prudence vit que sa dame de compagnie rentrait un peu la tête dans les épaules. Pour calmer sa contrariété, Odéarde laissa errer ses yeux sur le paysage. Elle finit par arrêter son attention sur la petite troupe de gens de guerre qui ne tarderait pas à passer l'angle de l'enceinte dissimulant la porterie. Au bout de quelques instants, un vague amusement finit par détendre sa physionomie polissée. « Allons, je vous dois bien la vérité, » reprit-elle sur un ton plus urbain. « Je n'ignorais pas que ma proposition pourrait vous valoir quelque tracas si notre arrangement était découvert. Que voulez-vous? Je m'ennuie si mortellement. Maître Maduaigne dans l'embarras m'aurait un peu vengé. Ce n'est pas moi qui vous ai mise dans la situation où vous vous retrouvez. Figurez-vous que moi non plus. En revanche, c'est vous qui en détenez les clés. Justement, dame Odéarde, tant que j'en ai la garde, vous êtes entre les mains d'une hôtesse et non d'un geôlier. Tout à l'heure, j'ai encore dû dissuader le chevalier de Guelde de vous placer au cachot. C'est une idée fixe chez notre homme, non par aversion pour votre personne, mais juste afin d'être plus tranquille. Toutefois, si vos manigances jettent le discrédit sur mon autorité, je ne serai plus en mesure de vous protéger. Me protéger ? La prisonnière partit d'un rire cinglant. Me protéger ? Reprit-elle avec dérision. La belle égide que m'offre votre religion, me protéger. Un jour plus prochain que vous ne croyez, je vous apprendrai le sens véritable de ce mot. Voici une menace qui tombe mal à propos. Je ne vous menace pas, ma chère. Proférer des menaces n'a de sens que si l'on est en position de force. Je vous instruis simplement de la signification d'un terme qui n'est pas le même dans une cour que dans un cloître. Ce peut être aussi le dernier recours d'une personne réduite à quia, répondit posément la mystagogue. Vous le savez mieux que moi. N'est-ce pas l'impression que vous voulez me donner afin de dissimuler les intelligences dont vous disposez dans ma communauté? L'expression de son interlocutrice se fit moins hautaine et se teinta même d'un soupçon de connivence. Eh bien, salua-t-elle. « Depuis toutes ces années, vous n'avez pas complètement perdu l'usage du monde. » Renoncement ne rime point avec oubli. « Dans ce cas, vous m'en voulez toujours, et nous savons toutes les deux que c'est la raison véritable de mon exil à Mondoire. La raison de votre exil n'est-elle pas plutôt la faute qu'on vous a reprochée ?»« Vous jouez sur les mots. Je vous parle du lieu où l'on a fixé ma réclusion. » Nom de la cabale à l'origine de mes vicissitudes. La brise apporta l'écho de quelques appels du côté de la porterie. Prudence réprima un soupir en se disant qu'il lui faudrait également rencontrer le banneret de Cagvel avant de réunir le chapitre. Du moins apprendrait-elle de première main si tout danger était levé sur les terres dépendant du monastère. Sachez que je n'étais pas plus heureuse que vous de la décision prise par le duc.
poursuivait-elle à l'attention de la captive. « Je l'ai jugée inutilement offensante, pour vous comme pour moi. » À n'en pas douter, il espère de nos différents passés qu'ils nous dresseront l'une contre l'autre et resserreront la surveillance que j'exerce sur vous. Nous affronter, dame Odéarde, n'est qu'une autre façon de remplir ses attentes. Il ne tient qu'à nous de le décevoir sur ce point.
J'ai du mal à vous suivre, ma chère. À vous entendre, la meilleure façon de frustrer le duc est de se conformer à ses ordres.
Je pense au contraire que vous me comprenez fort bien. Je vous prie de ne pas donner davantage prise aux suspicions de ces lieutenants.
Quel langage me tenez-vous là, révérende mère? Je refuse de vous croire si candide. Vous êtes bien placé pour savoir que le duc contraint sans scrupule les gens qu'il a décidé d'écarter.
Pour autant, faut-il lui faciliter la tâche en lui prêtant le flanc?
Plaisante situation,
railla Odéarde.
La gardienne tremble plus que la prisonnière.
N'est-ce pas dans l'ordre des choses? La rumeur d'éclat de voix s'élevait toujours du côté de la porterie. L'auscultatrice tout sauta pour attirer l'attention de sa supérieure. Quand Prudence lui accorda un coup d'œil, la sœur Mincende posa rapidement son poing gauche sur la main droite avant de l'écarter en ouvrant les doigts, tout en haussant les sourcils de façon interrogative. Elle demandait s'il fallait partir au renseignement, probablement à propos de la bruyante arrivée du chevalier de Cacvel. La mystagogue lui répondit par un furtif geste de refus. Rester seule face à la duchesse déchue aurait renforcé la détermination de l'insoumise. Le regard perçant que lança Odéarde aux deux religieuses mit la supérieure mal à l'aise. Elle eut la certitude que la grande dame avait compris leur échange. Elle avait donc appris la langue des signes monastiques. À l'avenir, il faudrait éviter d'employer ce code en sa présence. L'impression d'avoir été percée à jour donna à la mystagogue l'absurde sentiment d'être prise en faute. Cela raviva son irritation. Elle décida qu'il était temps d'arrêter de jouer à la plus fine.
« En vérité, dit-elle sans détour, j'ai tout lieu de craindre des représailles de la part des autorités ducales. Ma conviction est faite. Vous avez tissé votre toile au sein de ma communauté. Cette tentative de compromettre le sanctuaire avec l'argent de votre fils n'est que l'une des lignes que vous avez lancées. Vous disposez déjà de relais dans mon chapitre où vous jouez de certaines divisions pour accroître votre influence. Ce matin, je suis venu vous sommer de mettre un terme à vos manigances, sans quoi je retirerai ma main de votre tête. Vous avez beau la mépriser, vous regretterez alors la protection du cloître.
Voici des propos extraordinaires, se piqua la grande dame. Que puis-je répondre à cela? Vous me condamnez sans procès.
Le frère vindicien était confondu. J'ai recueilli ses aveux. Ouvrant son livre, Prudence en tira les trois plis et les brandit au grand jour. Voici les lettres que vous attendiez du seigneur de Vert. Odéarde considéra froidement les billets, puis fixa la supérieure dans les yeux.
Qu'ai-je à voir avec ceci? Demanda-t-elle d'un ton égal.
Ces lettres sont-elles de ma main?
Bien sûr que non, votre fils en est l'auteur.
En savez-vous?
Il peut s'agir de faux, fabriqués dans le dessein de me nuire. Elles ont été cachetées avec le petit seau de verre. La ci-devant duchesse haussa les épaules.
Montrez un cachet à un orfèvre peu regardant sur la morale, il saura vous en refaire la matrice.
Je crois plutôt que c'est parce que vous attendiez ces lettres qui n'arrivaient pas que vous avez pris prétexte d'une commande d'atelier pour ouvrir une autre voie de communication.
Je suis flatté d'apprendre que vous me prêtez tant d'ingéniosité.
Niez tant qu'il vous plaira, madame. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous arrêtiez vos menées.
Dans le cas contraire, j'aurai le déplaisir de communiquer cette correspondance au chevalier de Gueld.
Odéarde de Maginois prit le temps de la réflexion, tout en caressant machinalement l'étoffe moirée de son ouvrage. Cette brève délibération donna l'espoir à la mystagogue que la prisonnière pesait les risques de la dénonciation. Cela la déciderait peut-être à suspendre ses intrigues
au moins pendant quelque temps.
« Si je vous donne des gages d'obéissance, »
reprit la grande dame, « me montrerez-vous le texte de ces lettres ?»«
Vous cherchez toujours à me compromettre. Comment avoir l'assurance que vous ne me mystifiez point ?»«
Vous avez ma parole que ces lettres sont bien de votre fils. »«
Votre parole ?»
La suzeraine déchue fit une moue teintée d'ironie.
On n'a tenu pour rien la parole d'une duchesse quand elle jurait de son innocence. Quel crédit puis-je accorder à celle d'une simple nonne?
Ma bonne foi n'a jamais été remise en question. Au cours de votre procès, plusieurs témoignages ont contredit vos serments. La prisonnière souffla avec mépris.
Des faux témoignages,
corrigea-t-elle,
et pas si nombreux que cela.
Ces considérations sont hors de propos. Je ne veux pas refaire votre procès, mais vous rappeler à l'ordre.
Bien sûr. Il ne suffit pas d'enfermer la femme adultère. Il convient aussi de lui faire la leçon.
Vos sarcasmes ne plaident guère en votre faveur. Étouffés par les murs et la sérénité des cloîtres, leur parvint à nouveau l'écho d'un tapage du côté de la porterie et de l'hostellerie. La rumeur, inhabituelle dans le sanctuaire, divertit l'attention d'Almody comme celle de la sœur auscultatrice et de la mystagogue. Auderde se pencha alors vers Prudence et lui effleura les doigts. La religieuse retira vivement les mains, de crainte de se faire arracher les lettres. Mais la duchesse déchue n'avait fait ce geste que pour solliciter l'écoute de son interlocutrice.
« Plaider en ma faveur ? »
s'écria-t-elle avec une étrange intensité.
« Quelle bonne idée !»«
Engagez-vous à rester tranquille, c'est tout ce que je vous demande. » La captive ne chercha pas à réprimer une mimique de dédain. Mais ses joues avaient pris des couleurs et ses yeux étaient devenus brillants.
« Ma chère, nous sommes dans une impasse »
observa-t-elle.
« Vous ne me croyez pas. J'aurais beau protester de ma bonne volonté sur tout ce que j'ai de plus sacré, vous n'y verriez que duplicité de ma part. Et si nous procédions différemment pour sortir de cette traverse ?»«
Différemment ?» releva la mystagogue sans dissimuler sa méfiance.
Je vois bien que vous tenez ma culpabilité pour acquise, parce que ne vous sont revenus que les injustes arrêts de la cour. Mais laissez-moi vous délivrer mon plaidoyer. C'est la seule faveur que je vous réclame. Une fois que vous m'aurez entendu, je me soumettrai sans discuter à toutes vos décisions.
Avez-vous bien conscience que cela ne modifiera en rien nos relations?
Je vous l'ai dit, je m'en remettrai entièrement à vous. Je nourris juste l'espoir que vous me verrez sous un autre jour. »
Prudence plissa les yeux. Elle ne comprenait pas où la prisonnière voulait en venir. « Je n'ai pas à vous juger pour les raisons qui vous ont amené ici, » argua-t-elle. « Je ne cherche qu'à contenir vos initiatives si elles portent préjudice à ce sanctuaire.
Vous n'avez pas à me juger, certes, mais vous avez mauvaise opinion de moi et cela crée des malentendus entre nous. » « Laissez-moi au moins donner ma version de cette triste affaire. Vous avez fréquenté le duc et vous êtes fine connaisseuse de l'âme humaine. Je ne doute pas que vous y verrez plus clair une fois que je vous aurai parlé à cœur ouvert. »
La mystagogue esquissa un geste d'accord, sans grande conviction.
« Pourquoi pas ? Ce sujet ne me concerne pas, mais si cela nous permet d'ouvrir une discussion plus franche, je vous écoute. »
La grande dame frappa dans ses mains avec une excitation singulière.
« Ah, que je suis heureuse! Que je suis heureuse !»
s'écria-t-elle.
« Nos rapports vont changer du tout au tout. »
Prudence haussa un sourcil. Elle trouvait vraiment bizarre cet enthousiasme soudain à plaider. Mais s'il lui paraissait excentrique, ce comportement n'avait rien de répréhensible. Elle se résigna donc à entendre un discours dont elle pressentait les raisonnements plus ou moins spécieux.
« Pour commencer, »
énonça Auderde avec fougue,
« il faut rappeler le motif de ma présence à Godemas. Pourquoi ai-je présidé à ce tournoi où l'on m'a ensuite accusé de m'être montrée trop galante? Mais tout simplement à la demande de mon mari. Pourquoi l'ai-je présidé seule? Parce qu'il devait négocier de toute urgence avec les échevins de plusieurs bonnes villes, étant dans l'incapacité d'honorer les dettes du trésor ducal. Le tournoi de Godemas lui-même coûtait fort cher, mais le duc estimait ses réjouissances indispensables pour réconcilier les noblesses de Bromel et de Quimarc au terme de la guerre qui venait de les opposer. Mon cher époux pensait que je mettrais plus de liens que lui dans cette société fraîchement réconciliée. Voilà pourquoi il m'avait prié d'être la reine de la fête. »
La mystagogue réprima un soupir. Cette tirade était sans rapport avec l'objet de sa visite. Du reste, le service demandé par le duc à son épouse ne justifiait nullement la légèreté de sa conduite. Les réserves de la religieuse n'échappèrent pas à la ci-devant duchesse qui s'empressa d'ajouter « Je lis en vous un livre ouvert, révérende mère. Vous vous dites que ma position à Godemas ne légitime en rien les faveurs que j'ai pu y distribuer? Oh, n'y voyez nulle clairvoyance de ma part. Vous avez l'expression de tous ces gens dont certains étaient de mon sang, qui m'ont ensuite traité de femme déloyale et lascive. Et je veux bien confesser une erreur, j'admets volontiers m'être montrée attrayante à Godemas, mais il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette conduite. Depuis mon mariage avec Ganelon, j'ai toujours été courtoise. Ai-je joué de mon charme? Assurément. Ai-je badiné en paroles? Mais c'est le sel de la conversation. Ai-je reçu des compliments et des madrigaux? J'en étais couverte. Et cela au vu et au su de toute la cour. Pour autant, ai-je franchi les bornes de la décence? Jamais. Ai-je perdu mon honneur? Jamais. Ai-je compromis l'avenir de mes fils? Au grand jamais. Ai-je trahi mon mari? Mais c'est tout le contraire.
La volubilité de la grande dame tournait à l'éloquence. Elle s'exprimait à présent avec flamme. Sa voix avait cru en portée, comme si elle ne s'adressait plus à deux religieuses dans un jardin monastique, mais comme s'il lui avait fallu se faire entendre au milieu d'un banquet, d'une chasse ou d'une cour de justice. Les sergents d'armes l'écoutaient avec un mélange de curiosité et d'effronterie. Prudence craignit que les échos de cette harangue ne troublassent la paix de l'atelier et de l'infirmerie.
« Pourquoi croyez-vous que mon cher époux a fait de moi l'ordonnatrice de ce tournoi ?»
poursuivait Odéarde.
« Précisément parce que j'apprivoisais cette société indisciplinée et belliqueuse. Ma conduite était claire aux yeux de la cour et au premier chef à ceux de mon mari. J'ai toujours eu pour principe de ne pas prendre d'amis pour conserver l'amour de tous. Certes, mon rang et quelques qualités contribuaient à mes charmes, mais j'étais surtout désirable d'être désiré. Il me suffisait de flatter sans vergogne la fierté des chevaliers, de me faire l'admiratrice complaisante de leurs prouesses sur le pré, pour m'attacher des fidélités plus ferventes que celles obtenues par un fief ou un apanage. Le duc jouait de l'emprise que j'exerçais ainsi sur les cœurs et la vanité de ses vassaux. Pour parler sans fard, il jouissait d'avoir pour épouse celle que tous désiraient, mais que lui seul possédait et trompait de surcroît.
Le regard de la duchesse répudiée s'alourdit sur Prudence, ce que la mystagogue jugea d'autant plus offensant qu'elle savait toutes deux n'avoir jamais été en rivalité. « Vous éludez votre faute, » observa la mère supérieure avec humeur. « On ne vous a pas reproché d'être galante en général, mais de l'avoir été en particulier.
C'est là le comble de la vilainie. »
repartit Odéarde.
Nul ne trouvait à redire à ce que j'avais coutume de faire, mais on m'a condamné pour ce que je n'ai pas commis.
Vous contestez donc tout ce que l'on a rapporté sur vous et sur ce chevalier?
Ah, parlons-en de ce chevalier de Vaumacel, cet ami qui m'aimait si fort qu'il n'est point venu me défendre à mon procès.
Mais tous ont pu voir qu'il portait vos couleurs à Godemas. Et ne s'est-il pas laissé vaincre afin de vous complaire? Pour ces paradeurs que sont les gens de guerre, il existe peu de gages d'amour plus éclatants. N'a-t-il pas reçu le prix de courtoisie pour ce geste?
Essayez de voir au-delà des apparences, révérende mère. Ce devrait être plus facile pour une sibylle de la vieille déesse que pour le tout venant d'une cour. Un chevalier qui ose obéir à un ordre aussi extravagant n'a rien d'un véritable amant. Il est soit fou, soit ensorcelé, soit d'une inconcevable arrogance. Le chevalier de Vaumacel n'était pas fou, et je n'ai rien d'une enchanteresse. La vérité, c'est qu'il était engagé dans un conflit d'orgueil. Son véritable adversaire n'était point le connétable de Traval, c'était moi. En s'humiliant à ma demande, il l'emportait dans le duel d'amour-propre où nous nous étions fourvoyés.
« Je ne vous suis plus, madame. Laissez-vous entendre qu'en se soumettant à votre caprice, il vous a contrainte ?»«
Il m'a compromise plutôt que contrainte, et j'en ai payé amèrement le prix. Il ne s'est rien passé d'indécent entre nous, mais je crois que peu lui importait. Le sire de Vaumacelle est un homme froid. L'obligation où il m'avait réduite avait pour lui plus de valeur que la jouissance qu'il aurait pu en tirer. Dans un sens, il s'est montré irréprochable, et pourtant l'outrage fut pour moi plus cuisant que si je lui avais cédé. Ai-je montré de la faiblesse? Je dois bien l'admettre. Mais ce ne fut point celle dont on m'a fait l'injure. J'ai péché par orgueil plutôt que par légèreté. Ma faute fut de vouloir plaire et non de vouloir aimer. »
La grande dame poussa un soupir plus excédé que repentant.
« Rien, vraiment rien ne laissait présager que le moindre lien pût se nouer entre le chevalier de Vaumacelle et moi, »
poursuivit-elle.
À Godemas, Sir Edan se flattait certes d'une petite réputation à vrai dire plus frondeuse que glorieuse. Il s'était illustré contre l'host du Cal. Au cours du siège de Mormarck, il avait défendu fermement une brèche ouverte par nos troupes dans le rempart, permettant de la sorte au comte Anguzel de négocier une reddition honorable. À mes yeux, cette prouesse témoignait plus en sa défaveur qu'en sa faveur. Mais enfin, le tournoi devait sceller la réconciliation des deux camps, et je faisais bon visage aux ennemis de la veille. Malheureusement, ce qui m'a piqué chez ce chevalier fut son indifférence à mes bonnes grâces. Un simple bachelier, plus très jeune de surcroît. Un renégat tout juste blanchi. Un vassal de petite noblesse qui osait morguer la reine du tournoi. Au cours du banquet qui ouvrait les réjouissances, il était relégué assez loin de la haute table. Mais le désintérêt qu'il manifestait pour ma personne me désobligeait au plus haut point. Alors je l'ai interpellé. Et j'ai fait publiquement l'éloge de sa civilité. Sans se démonter le moins du monde, il a eu l'outrecuidance de proclamer que ce serait un honneur de défendre mes couleurs.
Odéarde secoua la tête avec un air où se mêlaient la réprobation et les regrets.
« J'ai été offusqué par tant d'audace. Alors je l'ai pris au mot. Du moins, est-ce ce que j'ai cru faire ? Pour châtier son insolence, je lui ai accordé ce que j'avais toujours refusé à mes admirateurs. Mon intention était bien de le rabaisser. La manche que je lui avais cédée avait embrasé les jalousies. J'avais la certitude qu'elle concentrerait sur lui la colère de mes adulateurs, et qu'il serait accablé sous le nombre une fois la mêlée engagée. Non seulement il aurait été vaincu, mais il serait tombé en prétendant défendre les couleurs de la duchesse. L'humiliation en aurait été redoublée et m'aurait vengé de son dédain. »
Mais les événements ont suivi un autre cours, intervint Prudence qui, sans se départir de son scepticisme, finissait par trouver quelque intérêt aux confidences de la captive.
Hélas ! J'avais sous-estimé la vaillance de ce diable d'homme. Sur le pré, les choses ont pourtant commencé comme je l'avais prévu. On se bousculait pour affronter le chevalier de Vaumacelle, et sans le soutien de son conroi, il aurait été rapidement débordé. Mais il parvint à soutenir les assauts et à vaincre ses adversaires. Ce jour-là, il prit pas moins de 5 chevaux et autant de prisonniers. Il me dédiait chaque capture en me saluant de la lance ou de l'épée. Le public était transporté, à ma grande confusion. La foule associait mon nom à chacune des acclamations qui saluaient ses victoires. Vers la fin des combats, il ne restait plus grand monde sur la lice, et à peine une poignée de preux en état de se battre. Il en était encore. Tout le monde voyait déjà en lui le vainqueur de la journée. Je me trouvais dans le plus pénible des embarras. En l'absence du duc, je risquais de me trouver à parier à mon champion victorieux. C'était inconcevable. Au cours d'un bref relâche, je l'ai fait appeler devant la tribune et je lui ai donné l'ordre que vous savez. Je ne croyais pas qu'il le suivrait, mais au moins je pensais prétexter sa désobéissance pour lui battre froid dans la soirée et ne pas paraître compromise. Il avait relevé son mésaille pour parler avec moi. Je revois encore cette figure suante et présomptueuse. Il m'a foudroyé du regard, mais il m'a répondu avec la plus parfaite correction. « Dame, il sera fait selon votre bon plaisir. » Et il est parti tout droit défier le connétable pour se faire battre à plate couture. Ce fut une complète déconvenue. Le public n'en revenait pas. Puis courut très vite le bruit que je lui avais demandé de combattre au pis. Vaincu, il reçut les plus grands témoignages d'admiration. Quant à moi, pour la première fois, je sentis la réprobation de la noblesse à mon encontre. L'opinion de la cour était unanime. Le geste de Sire Edan relevait de la suprême élégance. Il me fut impossible de lui refuser le prix de courtoisie.